Virgile, Géorgique. Livre 4. Traduction versifiée de Jacques Delisle. Enfin, je vais chanter le peuple industrieux qui recueille le miel, ce doux présent des cieux. Mécène daigne encore sourire à mes abeilles. Dans ces petits objets, que de grandes merveilles. Viens, je vais célébrer leur police, leurs lois, et les travaux du peuple, et la valeur des rois. Et si le dieu des vers veut me servir de maître, moins le sujet est grand, plus ma gloire va l'être. D'abord, de tes essaims, établis le palais en un lieu dont le vent ne trouble point la paix. Le vent, à leur retour, ferait plier leurs ailes, tremblantes sous le poids de leurs moissons nouvelles. Que jamais auprès d'eux, le chevreau, bondissant, ne vienne folâtrer sur le gazon naissant, ne détache des fleurs ces gouttes de rosée qui tremblent, le matin, sur la feuille arrosée. Loin d'eux le ver lézard, les guêpiers ennemis, prognée sanglante encore du meurtre de son fils. Tout ce peuple d'oiseaux, avide de pillage, ils exercent partout un affreux brigandage, et saisissant l'abeille errante sur le thym, en font à leurs enfants un barbare festin. Je veux près des essaims une source d'eau claire, des étangs couronnés d'une mousse légère. Je veux un doux ruisseau, fuyant sous le gazon, et qu'un palmier épais protège leur maison. Ainsi, lorsqu'au printemps développant ses ailes, le nouveau roi conduit ses peuplades nouvelles, cette onde les invite à respirer le frais. Cet arbre les reçoit sous son feuillage épais. Là, soit que l'eau serpente ou soit qu'elle repose, des cailloux de ses bords, des arbres qu'elle arrose, tu formeras des ponts où les essaims nouveaux dispersés par les vents ou plongés dans les eaux rassemblent au soleil leurs bataillons timides et raniment les mailles de leurs ailes humides. Près de là, que le thym, leur aliment chéri, le muguet parfumé, le serpolet fleuri, s'élèvent en bouquets, s'étendent en bordure, et que la violette y boive une onde pure. Leur toit, formé d'écorce ou tissu d'arbrisseau, pour garantir de l'air le fruit de leurs travaux, n'auront, dans leur contour, qu'une étroite ouverture. Ainsi que la chaleur, le miel craint la froidure. Il se fond dans l'été, se durcit dans l'hiver. Aussi, dès qu'une fente ouvre un passage à l'air, à réparer la brèche, un peuple entier conspire. Il la remplit de fleurs, il la garnit de cire, et conserve en dépôt pour ses sages emplois un suc plus onctueux que la gomme des bois. Souvent même, on les voit s'établir sous la terre, habiter de vieux troncs, se loger dans la pierre. Joins ton art à leurs soins, que leurs toits entr'ouverts soient cimentés d'argile et de feuilles couverts. De tout ce qui leur nuit, garantit leur hospice, loin de là, sur le feu, fait rougir l'écrevisse, défend à l'if impur d'ombrager leur maison. Craint les profondes eaux, craint l'odeur du limon et la roche sonore où l'écho qui sommeille répond en l'imitant à la voix qui l'éveille.
Thank you.
Mais le printemps renaît. De l'empire de l'air, le soleil triomphant précipite l'hiver et le voile élevé qui couvrait la nature. Aussitôt, s'échappant de sa demeure obscure, l'abeille prend l'essor, parcourt les arbrisseaux. Elle suce les fleurs, rase en volant les eaux. C'est de ces doux tributs de la terre et de l'onde qu'elle revient nourrir sa famille féconde, qu'elle forme une cire aussi pure que l'or et pétrit de son miel le liquide trésor. Bientôt, abandonnant les ruches maternelles, ce peuple, au gré des vents qui secondent ses ailes, fend les vagues de l'air et sous un ciel d'azur s'avance lentement, tel qu'un nuage obscur. Suis sa route. Il ira sur le prochain rivage chercher une onde pure et des toits de feuillage. Fais broyer en ces lieux la mélisse ou le thym. De si belles alentours fait retentir les reins. Le bruit qui l'épouvante et l'odeur qui l'appelle l'avertissent d'entrer dans sa maison nouvelle. Mais lorsqu'entre deux rois l'ardente ambition allume les flambeaux de la division, sans peine l'on prévoit leur discorde naissante. Un bruit guerrier s'élève, et leur voix menaçante imite du clairon les sons entrecoupés. Les combattants épars déjà sont attroupés, déjà brûlent de vaincre ou de mourir fidèles. Ils aiguisent leurs dards, ils agitent leurs ailes, et rangés près du roi, défiant son rival, par des cris belliqueux demandent le signal. Dans un beau jour d'été, soudain la charge sonne. Il s'élance du camp et le combat se donne. L'air au loin retentit du choc des bataillons. Le globe ailé s'agite et roule en tourbillon. Précipité des cieux, plus d'un héros succombe, ainsi pleuvent les glands, ainsi la grêle tombe. À leur riche parure, à leurs brillants exploits, au fort de la mêlée on distingue les rois. Ils pressent le soldat, ils échauffent sa rage, et dans un faible corps s'allume un grand courage. Mais tout ce fier courroux, tout ce grand mouvement qu'on jette un peu de sable, il cesse en un moment. Quand les rois ont quitté les plaines de Bellone, donne aux vaincus la mort, aux vainqueurs la couronne. Aisément, on connaît le plus vaillant des deux. De sa tunique d'or, l'un éblouit les yeux. L'autre, à regret, montrant sa figure hideuse, traîne d'un ventre épais la masse paresseuse. Il faut, comme les rois, distinguer les sujets. Les uns n'offrent aux yeux que d'informes objets. Leur couleur est pareille à la poussière humide que chasse un voyageur de son gosier aride. Les autres sont polis et luisants et dorés et d'un brillant émail richement coloré. Préfère cette race. Elle seule en automne t'enrichira du suc des fleurs qu'elle moissonne. Elle seule au printemps te distille un miel pur qui dompte l'âpreté d'un vin fougueux et dur. Cependant, si ce peuple, en son humeur volage, quittait ses ateliers, suspendait son ouvrage, sans peine on le rappelle à ses premiers emplois, arrache seulement les ailes de ses rois. Quels sujets oseront, quand leur chef est tranquille, abandonner leur poste et déserter la ville? Toi-même, pour fixer leurs folâtres humeurs, parfume tes jardins des plus douces odeurs, ombrage de pin vert les dômes qu'ils habitent, que les vapeurs du thym au travail les invitent, que Priape, en ces lieux, écarte avec sa faux et la main des voleurs et le bec des oiseaux. Fais-y naître des fruits, fais-y croître des plantes, et verse aux tendres fleurs des eaux rafraîchissantes. Si mon vaisseau, longtemps égaré loin du bord, ne se hâtait enfin de regagner le port, peut-être je peindrais les lieux chéris de Flore. Le narcisse en mes vers s'empresserait d'éclore. Les roses m'ouvriraient leurs calices brillants, le tortueux concombre arrondirait ses flancs. Du persil toujours vert, des pâles chicorées, ma muse abreuverait les tiges altérées. Je courberais le lierre et l'acanthe en berceau, et le myrte amoureux ombragerait les eaux. Aux lieux où le galèse en des plaines fécondes, parmi les blonds épis roule ses noires ondes, j'ai vu, je m'en souviens, un vieillard fortuné, possesseur d'un terrain longtemps abandonné. C'était un sol ingrat, rebelle à la culture, qui n'offrait aux troupeaux qu'une aride verdure, ennemi des raisins et funeste aux moissons. Toutefois, en ces lieux hérissés de buissons, un parterre de fleurs, quelques plantes heureuses, qu'élevaient avec soin ses mains laborieuses, un jardin, un verger, dociles à ses lois, lui donnait le bonheur, qui s'enfuit loin des rois. Le soir, des simples mets que ce lieu voyait naître, ses mains chargeaient sans frais une table champêtre. Il cueillait le premier les roses du printemps, le premier de l'automne amassait les présents. Et lorsque, autour de lui, déchaîné sur la terre, l'hiver impétueux brisait encore la pierre, d'un frein de glace encore enchaînait les ruisseaux, lui déjà de l'acanthe émondait les rameaux, et du printemps tardif, accusant la paresse, prévenait les zéphyrs et hâtait sa richesse. Chez lui le vert tilleul tempérait les chaleurs, le sapin pour l'abeille y distillait ses pleurs. Aussi dès le printemps toujours prêts à renaître, d'innombrables essaims enrichissaient leur maître. Il pressait le premier ses rayons toujours pleins, et le miel, le plus pur, écumait sous ses mains. Jamais Flore chez lui n'osa tromper Pomone. Chaque fleur du printemps était un fruit d'automne. Il savait aligner pour le plaisir des yeux des poiriers déjà forts, des ormes déjà vieux, et des pruniers greffés, et des platanes sombres qui déjà recevaient les buveurs sous leurs ombres. Mais d'autres chanteront les trésors des jardins. Le temps fuit. Je revole aux travaux des essaims. Jadis, parmi les sons des cymbales bruyantes, l'abeille, secondant les soins des corybantes, nourrit dans son berceau le jeune roi du ciel. Son admirable instinct fut le prix de son miel. Chez elle, les sujets unissent leurs fortunes. Les enfants sont communs, les richesses communes. Elle bâtit des murs, obéit à des lois, et prévoit au temps chaud les besoins des temps froids. L'une s'en va des fleurs dépouillées le calice, l'autre d'un suc brillant et des pleurs du narcisse, pétrit les fondements de ses murs réguliers, et d'un rempart de cire entoure ses foyers. L'autre forme un miel pur d'une essence choisie et comble ses celliers de sa douce ambroisie. L'autre élève à l'état des enfants précieux. Celles-ci, tour à tour, vont observer les cieux. Plusieurs font sentinelle et veillent à la porte. Plusieurs vont recevoir les fardeaux qu'on apporte. D'autres livrent la guerre aux frelons dévorants. Tout s'empresse, partout coule un miel odorant. Tels les fils de Vulcain, dans les flancs de la terre se hâte à l'envie de forger le tonnerre. L'un tour à tour enferme et déchaîne les vents, l'autre plonge l'acier dans les flots frémissants. L'autre, du fer rougi, tourne la masse ardente. L'Etna tremblant gémit sous l'enclume pesante, et leurs bras vigoureux lèvent de lourds marteaux qui tombent en cadence et domptent les métaux. Tels, aux petits objets si les grands se comparent, en décors différents les essaims se séparent. La vieillesse, d'abord, préside au bâtiment, dessine des remparts les longs compartiments. La jeunesse, des murs abandonnant l'enceinte, sur le safran vermeil, sur la sombre hyacinthe, sur les tilleuls fleuris, enlève son butin, moissonne la lavande et dépouille le thym. On les voit s'occuper, se délasser ensemble. L'aurore, lui, tout part. La nuit vient, tout s'assemble. L'espoir d'un doux repos les invite au retour. On s'empresse à la porte, on bourdonne alentour. Dans son alcôve, enfin, chacune se cantonne. Plus de bruit. Tout ce peuple au sommeil s'abandonne. L'air est-il orageux et le vent incertain? Il ne hasarde point de voyage lointain. À l'abri des remparts, de sa cité tranquille, il va puiser une onde à ses travaux utiles. Et souvent, dans son vol, tel qu'un nocher prudent, lesté d'un grain de sable, il affronte le vent. Ses enfants sont nombreux. Cependant, ô merveille, l'hymen est inconnu de la pudique abeille. Ignorant ses plaisirs ainsi que ses douleurs, elle adopte des vers, éclos du sein des fleurs. De jeunes citoyens repeuplent son empire et placent un roi nouveau dans ses palais de cire. Aussi, quoique le sort avare de ses jours au septième printemps en termine le cours, sa race est immortelle, et sous de nouveaux maîtres, d'innombrables enfants remplacent leurs ancêtres. Plus d'une fois aussi, sur des cailloux tranchants, elle brise son aile en parcourant les champs, et meurt, sous son fardeau, volontaire victime. Tant du miel et des fleurs, le noble amour l'anime. Quel peuple de l'Asie honore autant son roi? Tandis qu'il est vivant, tout suit la même loi. Est-il mort? Ce n'est plus que discorde civile. On pille les trésors, on démolit la ville. C'est l'âme des sujets, l'objet de leur amour. Ils entourent son trône et composent sa cour, l'escortent au combat, le portent sur leurs ailes et meurent noblement pour venger ses querelles. Frappés de ses grands traits, des sages ont pensé qu'un céleste rayon dans leur sein fut versé. Dieu remplit, disent-ils, le ciel, la terre et l'onde. Dieu circule partout et son âme féconde à tous les animaux prête un souffle léger. Aucun ne doit périr, mais tous doivent changer, et, retournant aux cieux en globe de lumière, vont rejoindre leur être à la masse première. Enfin, veux-tu ravir leur nectar écumant? Devant leur magasin, porte un tison fumant, et qu'une onde échauffée en roulant dans ta bouche pleuve pour l'écarter sur l'insecte farouche. L'abeille est implacable en son inimitié. Attaque sans frayeur, se venge sans pitié. Sur l'ennemi blessé, s'acharne avec furie et laisse dans la plaie et son dard et sa vie. Deux fois d'un miel doré ses rayons sont remplis. Deux fois ses dons heureux tous les ans sont cueillis. Et lorsqu'abandonnant l'humide sein de l'onde, tes jettes montent aux cieux pour éclairer le monde, et lorsque cette nymphe au retour des hivers redescend tristement dans le gouffre des mers. Toutefois, si l'hiver, alarmant ta prudence, te fait de tes essaims craindre la décadence, épargne leurs trésors dans ces temps malheureux, et n'en exige point un tribut rigoureux, mais parfume leur toit, et prends les rayons vides dont viennent se nourrir leurs ennemis avides. La chenille en rampant gagne leur pavillon, le lourd frelon se rit de leur faible aiguillon, le lézard de leur miel se nourrit en silence, leur travail de la guêpe engraisse l'indolence. Des cloportes sans nombre assiègent leur palais, et l'impure araignée y suspend ses filets. Mais plus on les épuise, et plus leur diligence de l'état appauvri répare l'indigence. Comme nous, cependant, ces faibles animaux éprouvent la douleur et connaissent les maux. Des symptômes certains toujours en avertissent. Leur corps est décharné, leurs couleurs se flétrissent, on les voit dans leurs murs languir, emprisonnés, ou bien suspendre au seuil leurs essaims enchaînés. Tantôt leurs troupes en deuil, autour de ces murailles, accompagnent des morts les tristes funérailles. Tantôt le bruit plaintif de ce peuple aux abois imite l'aquilon murmurant dans les bois et le reflux bruyant des ondes turbulentes et le feu prisonnier dans les forges brûlantes. Veux-tu rendre à l'abeille une utile vigueur? que des sucs odorants raniment sa langueur, et dans des joncs remplis du doux nectar qu'elle aime, à prendre son repas, invite-la toi-même. Joins-y du raisin sec, du vin cuit dans les reins, ou la pomme du chêne ou les vapeurs du thym, et la rose flétrie et l'herbe du centaure. Mais il est une fleur plus salutaire encore. Sur les bords tortueux qu'enrichit son limon, le mêle la voit naître et lui donne son nom. De rejetons nombreux un amas l'environne, d'un disque éclatant d'or sa tête se couronne, mais de la violette, amante des gazons, la pourpre rembrunie embellit ses rayons. Et souvent les autels chargés de nos offrandes aiment à se parer de ces riches guirlandes. Le goût en est pourtant moins flatté que les yeux. Dans les flots odorants d'un vin délicieux, fais bouillir sa racine, et, devant tes abeilles, de ce mets précieux fais remplir les corbeilles. Mais si de tes essaims tout l'espoir est détruit, apprends par quel secret ce peuple est reproduit. Je vais de ce grand art éterniser la gloire, et dès son origine en rappeler l'histoire. Le peuple, dont le Nil inonde les sillons, qui sur des vaisseaux peints voguant dans ses vallons fend les flots nourriciers du fleuve qui l'adore, et de son noir limon voit la verdure éclore, les voisins des Persans, qu'il baigne de ses eaux, les lieux où, vers la mer courant par sept canaux, il fuit les cieux brûlants, témoins de sa naissance, de cet art précieux atteste la puissance. Ce mystère, d'abord, veut des réduits secrets. Il te faut donc choisir et préparer exprès un lieu dont la surface étroitement bornée soit enceinte de murs et d'un toit couronné, et que des quatre points qui divisent le jour une oblique clarté se glisse en ce séjour. Là conduis un taureau dont les cornes naissantes commencent à courber leurs pointes menaçantes, qu'on l'étouffe malgré ses efforts impuissants, et sans les déchirer, qu'on meurtrisse ses flancs. Il expire, on le laisse en cette enceinte obscure, embaumé de lavande, entouré de verdure. Choisis pour l'immoler le temps où, des ruisseaux déjà, les doux zéphyrs font frissonner les eaux, avant que sous nos toits voltige l'hirondelle et que des prés fleuris, les mailles se renouvellent. Les humeurs cependant fermentent dans son sein. Ô surprise, ô merveille, un innombrable essaim dans ses flancs échauffés tout à coup vient d'éclore. Sur ses pieds mal formés, l'insecte rampe encore. Sur des ailes, bientôt il s'élève en tremblant. Plus vigoureux enfin, le bataillon volant s'élance, aussi pressé que ces gouttes nombreuses qu'épanche un ciel brûlant sur les plaines poudreuses, ou que ses traits, dans l'air élancés à la fois quand les partes guerriers épuisent leur carquois. Muse, révélez-nous l'auteur de ces merveilles. Possesseur autrefois de nombreuses abeilles, Aristée avait vu ce peuple infortuné par la contagion, par la faim moissonner. Aussitôt, des beaux lieux que le Péné arrose, vers la source sacrée où le fleuve repose, il arrive. Il s'arrête, et tout baigné de pleurs, à sa mère en ces mots, exhale ses douleurs. Déesse de ses eaux, ô sirène, ô ma mère, si je puis me vanter qu'Apollon est mon père, hélas, du sang des dieux, n'as-tu formé ton fils que pour l'abandonner aux destins ennemis? Ma mère, qu'as-tu fait de cet amour si tendre? Où sont donc ces honneurs où je devais prétendre? Hélas, parmi les dieux j'espérais des autels, et je languis sans gloire au milieu des mortels. Ce prix de tant de soins qui charmait ma misère, mes essaims ne sont plus, et vous êtes ma mère. Achevez, de vos mains, ravagez ces coteaux, embrasez mes moissons, immolez mes troupeaux. Dans ces jeunes forêts, allez porter la flamme, puisque l'honneur d'un fils ne touche point votre âme. » Sirène entend sa voix au fond de son séjour. Près d'elle, en ce moment, les nymphes de sa cour filaient d'un doigt léger des laines verdoyantes. Leurs beaux cheveux tombaient en tresses ondoyantes. Là sont la jeune Opis aux yeux pleins de douceur, et Clio, toujours fière, et Béroé, sa sœur. Toutes deux se vantant d'une illustre origine, étalant toutes deux l'or, la pourpre et l'hermine. et la brune Nésée et la blonde Phyllis, Thalie au teint de rose, Éphyre au teint de lys. Près d'elle, Simodos à la taille légère, Sidipe, vierge encore, Lycoris, déjà mère. Vous, Arétuse, enfin, que l'on vit autrefois, pressez d'un pas léger les habitants des bois. Pour charmer leur ennui, Climène, au milieu d'elle, leur racontait, des dieux, les amours infidèles. Et Vénus de Vulcain trompant les yeux jaloux, et le bonheur de Mars et ses larcins si doux. Tandis qu'à l'écouter, les nymphes attentives font tourner leurs fuseaux entre leurs mains actives, du malheureux berger la gémissante voix parvient jusqu'à sa mère, une seconde fois. Sirène s'en émeut, ses compagnes timides ont tressailli d'effroi dans leurs grottes humides. Arétuse, cherchant d'où partent ses sanglots, montre ses blonds cheveux sous la voûte des flots. Ô ma sœur, tu sentais de trop justes alarmes. Ton fils, ton tendre fils, tout baigné de ses larmes, paraît au bord des eaux, accablé de douleur. Et sa mère est, dit-il, insensible à ses pleurs. Mon fils, répond Sirène en pâlissant de crainte, qu'il vienne, et quel est donc le sujet de sa plainte? Qu'on amène mon fils, qu'il paraisse à mes yeux. Mon fils a droit d'entrer dans le palais des dieux. Fleuve, retire-toi. L'onde respectueuse, à ces mots suspendant sa course impétueuse, s'ouvre, et se repliant en deux monts de cristal, le porte mollement au fond de son canal. Le jeune dieu descend. Il s'étonne, il admire le palais de sa mère et son liquide empire. Il écoute le bruit des flots retentissants, contemple le berceau de cent fleuves naissants qui, sortant en grondant de leurs grottes profondes, promènent en cent lieues leur course vagabonde. De là partent le phase et le vaste Lycus, le père des moissons, le riche Caïcus, les Nippées, orgueilleux d'orner la Thessalie, le Tibre, encore plus fier de baigner l'Italie, l'Hypanis se brisant sur des rochers affreux, et l'agneau paisible et l'éridan fougueux, qui, roulant à travers des campagnes fécondes, court dans les vastes mers, ensevelir ses ondes. Mais enfin il arrive à ce brillant palais, que les flots ont creusé dans un roc toujours frais. Sa mère, en l'écoutant, sourit et le rassure. Les nymphes sur ses mains épanchent une eau pure, offrent pour les sécher de fins tissus de lin. On fait fumer l'encens, on fait couler le vin. Prends ce vase, ô mon fils, afin qu'il nous seconde. Invoquons l'océan, le vieux père du monde. Et vous, reine des eaux, protectrice des bois, entendez-moi, mes sœurs. Elle dit, et trois fois le feu sacré reçut la liqueur pétillante. Trois fois jaillit dans l'air une flamme brillante. Elle accepte l'augure et poursuit en ces mots. Protée, ô mon cher fils, peut seul finir tes mots. C'est lui que nous voyons, sur ces mers qu'il habite, atteler à son char les monstres d'Amphitrite. Phalène est sa patrie, et dans ce même jour, vers ses bords fortunés, il hâte son retour. Les nymphes, les tritons, tous jusqu'au vieux Néré, respectent de ce dieu la science sacrée. Ses regards pénétrants, son vaste souvenir, embrassent le présent, le passé, l'avenir. Précieuse faveur du dieu puissant des ondes dont il paie les troupeaux dans les plaines profondes. Par lui tu connaîtras d'où naissent tes revers, mais il faut qu'on l'y force en le chargeant de fer. On a beau l'implorer, son cœur, sourd à la plainte, résiste à la prière et cède à la contrainte. Moi-même, quand Phébus, partageant l'horizon de ses feux dévorants, jaunira le gazon, à l'heure où les troupeaux goûtent le frais de l'ombre, je guiderai tes pas vers une grotte sombre, où sommeille ce dieu sorti du sein des flots. Là tu le surprendras dans les bras du repos. Mais à peine on l'attaque, il fuit, il prend la forme d'un tigre furieux, d'un sanglier énorme. Serpent, il s'entrelace, et lion, il rugit. C'est un feu qui pétille, un torrent qui mugit. Mais plus il t'éblouit par mille formes vaines, plus il faut resserrer l'étreinte de ses chaînes, redoubler tes assauts, épuiser ses secrets, et forcer ton captif à reprendre ses traits. Sur son fils, à ces mots, sa main officieuse répand d'un doux parfum l'essence précieuse. Cette pure ambroisie embaume ses cheveux, rend son corps plus agile et ses bras plus nerveux. Au sein des vastes mers s'avance un mont sauvage, où le flot mugissant brisé par le rivage se divise et s'enfonce en un profond bassin qui reçoit les nochers dans son paisible sein. Là, dans un antre obscur se retirait Protée. Sirène le prévient, y conduit Aristée, le place loin du jour dans l'ombre de ses lieux, se couvre d'un nuage et se dérobe aux yeux. Déjà le chien brûlant, dont l'Inde est dévorée, vomissait tous ses feux sur la plaine altérée. Déjà l'ardent midi, desséchant les ruisseaux, jusqu'au fond de leur lit avait pompé leurs eaux. pour respirer le frais dans sa grotte profonde, Protée en ce moment quittait le sein de l'onde. Il marche. Près de lui, le peuple entier des mers bondit et fait au loin jaillir les flots amers. Tous ces monstres épars s'endorment sur la rive. Alors, tel qu'un berger quand la nuit sombre arrive, lorsque le loup s'irrite au cri du tendre agneau, le dieu, sur son rocher, compte au loin son troupeau. À peine il s'assoupit que le fils de sirène accourt, pousse un grand cri, le saisit et l'enchaîne. Le vieillard de ses bras sort en feu dévorant, il s'échappe en lion, il se roule en torrent. Enfin, las d'opposer une défense vaine, il cède. Et se montrant sous une forme humaine, « Jeune imprudent, dit-il, qui t'amène en ce lieu? Parle, que me veux-tu? » « Vous le savez, grand Dieu, oui, vous le savez trop, lui répond Aristée. Le livre des destins est ouvert à Protée, l'ordre des immortels m'amène devant vous. Daignez !» Le dieu, roulant des yeux pleins de courroux à peine de ses sens, dompte la violence, et tout bouillant encore, rompt ainsi le silence. « Tremble, un dieu te poursuit. Pour venger ses douleurs, Orphée a sur sa tête attiré ses malheurs. Mais il n'a pas au crime égalé le supplice. Un jour tu poursuivais sa fidèle Eurydice. Eurydice fuyait, hélas, et ne vit pas un serpent que les fleurs recelaient sous ses pas. La mort ferma ses yeux, les nymphes, ses compagnes, de leurs cris douloureux remplirent les montagnes. Le thrace belliqueux lui-même en soupira. Le rhodope en gémit et l'èbre en murmura. Son époux s'enfonça dans un désert sauvage. Là, seul, touchant sa lyre et charmant son veuvage, tendre épouse, c'est toi qu'appelait son amour, toi qu'il pleurait la nuit, toi qu'il pleurait le jour. C'est peu, malgré l'horreur de ses profondes voûtes, il franchit de l'enfer les formidables routes, et perçant ces forêts où règne un morne effroi, il aborda des morts l'impitoyable roi, et la parque inflexible, et les pâles furies que les pleurs des humains n'ont jamais attendries. Il chantait, et ravit jusqu'au fond des enfers au bruit harmonieux de ses tendres concerts, les légers habitants de ces obscurs royaumes, des spectres pâlissants de livides fantômes, accouraient, plus pressés que ces oiseaux nombreux qu'un orage soudain ou qu'un soir ténébreux rassemble, par milliers, dans les bocages sombres. Des mères, des héros, aujourd'hui vaines ombres, des vierges que l'hymen attendait aux autels, des fils mis au bûcher sous les yeux paternels, victimes que le Styx, dans ses prisons profondes, environne 9 fois des replis de ses ondes, et qu'un marais fangeux, bordé de noirs roseaux, entoure tristement de ses dormantes eaux. L'enfer même s'émut. Les fières Euménides cessèrent d'irriter leurs couleuvres livides. Ixion, immobile, écoutait ses accords. L'hydre affreuse oublia d'épouvanter les morts, et Cerbère, abaissant ses têtes menaçantes, retint sa triple voix dans ses gueules béantes. Enfin, il revenait triomphant du trépas. Sans voir sa tendre amante, il précédait ses pas. Proserpine, à ce prix, couronnait sa tendresse. Soudain, ce faible amant, dans un instant d'ivresse, suivit imprudemment l'ardeur qui l'entraînait. Bien digne de pardon si l'enfer pardonnait. Presque aux portes du jour, troublé, hors de lui-même, il s'arrête. Il se tourne, il revoit ce qu'il aime. C'en est fait. Un coup d'œil a détruit son bonheur. Le barbare Pluton révoque sa faveur, et des enfers, charmés de ressaisir leur proie, 3 fois le gouffre avare en retentit de joie. Eurydice s'écrie « Ô destin rigoureux, hélas, quel dieu cruel nous a perdus tous deux! Quelle fureur! Voilà qu'au ténébreux abîme le barbare destin appelle sa victime. » Adieu, déjà je sens dans un nuage épais nager mes yeux éteints et fermés pour jamais. Adieu, mon cher Orphée, Eurydice expirante en vain te cherche encore de sa main défaillante. L'horrible mort, jetant un voile autour de moi, m'entraîne, loin du jour, hélas, et loin de toi. Elle dit, et soudain dans les airs s'évapore. Orphée en vain l'appelle, en vain la suite encore, il n'embrasse qu'une ombre. Et l'horrible nocher de ses bords désormais lui défend d'approcher. Alors, 2 fois privé d'une épouse si chère, où porter sa douleur, où traîner sa misère, par quel son, par quel pleur fléchir le dieu des morts? Déjà cette ombre froide arrive au sombre bord. Près du strimon glacé dans les antres de Thrace, durant 7 mois entiers, il pleura sa disgrâce. Sa voix adoucissait les tigres des déserts, et les chaînes émues s'inclinaient dans les airs. Tel, sur un rameau, Durant la nuit obscure, Philomèle plaintive attendrit la nature, accuse en gémissant l'oiseleur inhumain qui, glissant dans son nid une furtive main, ravit ses tendres fruits que l'amour fit éclore et qu'un léger duvet ne couvrait pas encore. Pour lui, plus de plaisir, plus d'hymen, plus d'amour. Seul, parmi les horreurs d'un sauvage séjour, dans ces noires forêts du soleil ignoré, sur les sommets déserts des monts hyperborés, il pleurait Eurydice. Et plein de ses attraits, reprochait à Pluton ses perfides bienfaits. En vain, mille beautés s'efforçaient de lui plaire. Il dédaigna leur feu, et leurs mains sanguinaires, la nuit, à la faveur des mystères sacrés, dispersa dans les champs ses membres déchirés. L'èbre roula sa tête encore toute sanglante, là sa langue glacée, et sa voix expirante jusqu'au dernier soupir formant un faible son, d'Eurydice en flottant murmurait le doux nom. « Eurydice, ô douleur !» Touché de son supplice, les échos répétaient « Eurydice, Eurydice !» Le devin dans la mer se replonge à ces mots, et du gouffre écumant fait tournoyer les flots. Sirène de son fils vient calmer les alarmes. « Cher enfant, lui dit-elle, essuie enfin tes larmes, tu connais ton destin. » Eurydice autrefois accompagnait les chœurs des nymphes de ces bois. Elle venge sa mort. Toi fléchis leur colère, on désarme aisément leur rigueur passagère. Sur le riant lycée où paissent tes troupeaux, va choisir à l'instant quatre jeunes taureaux. Choisis un nombre égal de génisses superbes qui, des prés émaillés, foulent en paix les herbes. Pour les sacrifier, élève quatre autels. Et les faisant tomber sous les couteaux mortels, laisse leurs corps sanglants dans la forêt profonde. Quand la neuvième aurore éclairera le monde, au déplorable époux dont tu causas les maux, offre une brebis noire et la fleur des pavots. Enfin, pour satisfaire aux manes d'Eurydice, de retour dans les bois immole une génisse. Elle dit, le berger dans ses nombreux troupeaux va choisir à l'instant quatre jeunes taureaux, immole un nombre égal de génisses superbes qui des prés émaillés foulaient en paix les herbes. Pour la neuvième fois quand l'aurore parut, au malheureux Orphée, il offrit son tribut et rentra plein d'espoir dans la forêt profonde. Ô prodige ! Le sang, par sa chaleur féconde, dans le flanc des taureaux forme un nombreux essaim. Des peuples bourdonnants s'échappent de leur sein, comme un nuage épais dans les airs se répandent. Et sur l'arbre voisin, en grappes se suspendent. Ma muse ainsi chantait les rustiques travaux, les vignes, les essaims, les moissons, les troupeaux. Lorsque César, l'amour et l'effroi de la terre faisaient trembler l'Euphrate au bruit de son tonnerre, rendait son joug aimable à l'univers dompté et marchait à grands pas vers l'immortalité. Et moi, je jouissais d'une retraite obscure, je m'essayais dans Naples à peindre la nature, moi qui, dans ma jeunesse, à l'ombre des vergers, célébrais les amours et les jeux des bergers.